En fait, c'est une histoire personnelle, comme souvent, hein, ces projets-là. Je trouve que... Donc moi, je suis musicienne de formation, de métier pendant de longues années. Et puis, j'ai commencé à perdre l'audition il y a 12-13 ans. Et de fil en aiguille, j'ai été amenée à rencontrer des personnes sourdes. Et je me suis rendu compte que les personnes sourdes ont très difficilement accès au français, très difficilement accès à la poésie, à la littérature française. Ben moi, j'ai eu envie de leur donner ce qui était une partie de ma vie, l'écriture, de partager ça. Et il y avait une forte demande aussi de leur part. Et voilà, donc les choses sont nées comme ça, petit à petit. Et la langue des signes, on dit beaucoup la langue des signes. Non, ça ne peut pas être une langue poétique, ça ne peut pas être une langue de création. Évidemment, c'est faux. Évidemment, il y a plein de choses qui se passent en langue des signes. Et voilà, c'était une espèce de défi de traduire la poésie écrite en langue signée. Et voilà, c'est un défi qu'on a lancé et qu'on se relance tous les jours dans ce travail qui est un travail de longue haleine, mais qui donne des choses vraiment magnifiques. Et voilà, on intervient principalement, nous, avec le festival de poésie Voix Vive à 7, qui nous soutient beaucoup dans cette démarche, et puis dans le travail qu'on fait avec notre association à Résonance, qui est basée à côté de Montpellier. Voilà. Et donc c'est un travail en cours et dont on espère qu'il va aller loin.
Traduire des œuvres poétiques en langue des signes, c'est aussi redonner corps au langage. C'est on sort de la voix, on remet le tout dans le corps. Je ne sais pas si ça peut être compréhensible ce que je dis.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Et d'ailleurs, c'est très, très étonnant. On ne s'y attendait pas du tout. Dont les gens qui viennent à 7 et qui reviennent très régulièrement sur la scène qu'on anime à 7, il y a des gens qui ne parlent pas du tout la langue des signes, qui ne la connaissent pas du tout et qui nous disent « on revient sur votre scène parce que c'est là qu'on comprend le mieux la poésie ». Donc voilà, le fait que il y a le texte évidemment en français, soit pour les auteurs français, soit pour les auteurs étrangers traduits en français, et puis il y a cette incarnation du texte dans le corps au travers de quelque chose qui est une langue quand même, hein, évidemment, et qui a un sens. Mais cette espèce de chorégraphie qui se dégage à ce moment-là, apparemment, elle est porteuse de quelque chose qui échappe au sens même des signes qui sont faits. Et
mais c'est comme dans la poésie, il y a quelque chose qui échappe à la rationalisation du langage, on est dans l'émotion.
Oui, alors c'est remettre l'émotion sur le devant de la scène. Oui, sûrement ça fait partie, c'est une façon de porter l'émotion, mais enfin pas seulement. Et puis je pense qu'il faut aussi se dire que la langue des signes, c'est pas seulement ça, quoi. Mais effectivement, il y a ce rôle-là qui existe, qui échappe. Voilà, comme la poésie échappe, voilà.
Alors, Brigitte Baumier, vous avez fait paraître 3 livres. En 2007, La traversée des abandons avec Pierre Dubas. C'est paru aux éditions 6 pieds sous terre, Art Résonance. En 2010, J'ai tué, ça n'existe pas. Et en 2011, État de la neige, 2 textes qui sont parus chez Color Gang et dont nous allons parler plus longuement dans cet entretien. Est-ce que pour les auditeurs qui n'ont pas pu encore lire ces 2 textes, est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots ?
Ce sont 2 textes qui ont des projets très différents. J'ai tué, ça n'existe pas. C'est un texte qui est issu de... Enfin, c'est une suite de courts textes qui sont tous issus de... Si je peux dire, d'histoires vraies. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé en milieu scolaire. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants. J'avais envie de témoigner de l'écho de la parole des adultes. Pas forcément la parole qui s'adresse à l'enfant, pas forcément parce qu'on connaît cette parole qui peut quelquefois être violente, agressive, volontairement. Mais il y en a une autre qui passe à côté et qui est quelquefois absolument terrible parce que l'enfant la capte sans avoir les clés et qui peut être extrêmement destructrice et dont l'adulte est la plupart du temps totalement inconscient. Donc c'était plutôt cette parole-là que j'avais envie de faire entendre. Donc voilà, c'est un petit peu ça que cette suite de textes essaye de porter.
Donc ça, c'est « J'ai tué, ça n'existe pas ». Et « État de la neige », de quoi s'agit-il ? En quelques mots, c'est des fragments.
Alors « État de la neige », c'est à la fois des très courts textes et c'est en même temps l'idée de porter un récit. C'est un texte que j'ai écrit, disons avec l'image, je ne peux pas dire en hommage, j'aime pas trop, mais l'image du Québec en arrière-plan. J'ai vécu au Québec à une époque, donc c'était d'abord ça. Écrire un texte qui soit imprégné de ces échos que le Québec a eu en moi. Mais là-dessus, c'est greffé une histoire, qui est une histoire d'amour, qui est un récit fictif et qui se déroule sur une année. Voilà, et donc on traverse les saisons dans un rythme qui est extrêmement inégal parce que les saisons au Québec, elles n'ont pas du tout le même temps, le même retentissement. Donc ça, j'espère que ça transparaît à l'intérieur du texte. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça.
Oui, en effet, l'hiver dure un peu plus longtemps que le printemps ou l'été, par exemple. Dans ces deux textes, donc « J'ai tué, ça n'existe pas » et dans « État de la neige », qui sont donc parus chez Color Gang, comme on l'a dit, pour moi, il y a plusieurs points communs. Et le premier, c'est, je pourrais dire, ce serait une intensité très très forte à partir d'une certaine économie de mots. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez recherché, travaillé ?
Oui, je crois que bon, ça me vient peut-être de ma façon de voir la musique d'abord au départ. Bon, moi je pars du silence. Pour beaucoup de gens, quand j'ai travaillé avec des enfants, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'enfants, par exemple, à qui on demande le silence en permanence, le silence c'est la mort. Ils le disent comme ça, le silence c'est la mort. Et pour moi, c'est pas ça du tout. Le silence, c'est de là que tout naît. Et donc vraiment, pour moi, écrire, c'est arriver à faire résonner des choses dans le silence et donc laisser beaucoup de place à ça, à la respiration, à ce qui est autour du mot. Et donc, écrire, pour moi, c'est beaucoup retirer, gommer, voilà. Essayer d'aller avec, effectivement, le minimum de choses, dire le maximum, essayer de laisser beaucoup de résonance.
Vous jouez même sur les répétitions, sur l'espace aussi de la page du livre, pour créer ce silence et faire résonner les claques qui sont notamment dans « J'ai tué, ça n'existe pas ».
Je crois que c'est important. Enfin bon, effectivement, un texte, ce sont les mots, mais c'est aussi la façon dont il apparaît sur la page. Hein, ça, c'est évident. De même qu'une partition. En fait, pour moi, je pense qu'il y a un lien très fort avec la musique, comme je disais, et que ces textes sont aussi comme des partitions, et qu'un texte, pour moi, il ne peut être, entre guillemets, validé qu'une fois qu'il a passé le cap de l'oralité, c'est-à-dire que je lis à voix haute, et que je corrige beaucoup au travers de ces lectures à voix haute. Et donc voilà, j'essaye de retranscrire ça aussi dans la façon dont le texte apparaît sur la page et est mis en page. Et c'est vrai que bon, c'est super avec Color Gang parce que Ivolry a vraiment une écoute de ça et une très très grande attention au texte et à l'objet qu'il va pouvoir faire avec ce texte. Le livre, c'est pas juste un texte imprimé sur, c'est vraiment un objet qui existe, qui a une vie propre et voilà, c'est assez super de travailler avec lui pour ça.
Ce sont d'ailleurs des très très beaux livres. J'incite vraiment les auditeurs à aller sur le site internet de Color Gang, hein, voilà comme ça se prononce, pour se procurer et voir le catalogue de cette maison d'édition. Brigitte Baumier, pour parler tout d'abord de « J'ai tué, ça n'existe pas », j'ai été aussi happée par le fait que c'est une petite fille qui parle, c'est sa voix que l'on entend. Elle parle a priori à la première personne du singulier, mais alors les traces du jeu, le mot « jeu » est très très souvent effacé. Pourquoi ? Quel sens ça ?
Ben parce que j'ai essayé de faire que cette petite fille, c'est pas une petite fille unique, c'est la voix de je dirais pas de toutes les petites filles, mais voilà, c'est qu'elle s'efface elle parce qu'elle a une multiplicité d'identités. Elle est illimitée, cette petite fille, c'est toute une part d'enfance qui s'exprime à travers elle et je voulais pas que ça soit vraiment incarnées dans un seul personnage. C'était, comme je vous ai dit, ce sont toutes des petites histoires dont j'ai été témoin, dont on m'a parlé, qu'on m'a raconté. Bon, pour certaines que j'ai vécues aussi, il y a quelques textes qui sont autobiographiques. Il se trouve que voilà, j'ai fait le choix que ce soit des petites filles, mais bon, ça peut déborder largement. Existent les unes après les autres, et donc c'est un jeu qui est très multiple. Donc ça me fait plaisir que vous l'entendiez comme ça, parce que voilà, c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire, oui.
Ça veut dire que quelque part, écrire jeu réduit le côté universel de ce qui est exprimé pour vous ?
Ça ne devrait pas. Il se trouve que quand on est auteur et qu'on écrit à la première personne, de façon à peu près invariable, des gens viennent vous dire « mais vous avez vraiment vécu ça ?» Pour le lecteur, c'est souvent difficile de faire la part entre la personne qui écrit et qui peut écrire à la première personne, pourquoi pas, et qui peut même, femme, écrire à la première personne masculine. Bon, et puis le texte, et voilà. Donc peut-être que j'ai un peu voulu me protéger de ça, c'est possible aussi, oui.